Bonsoir. La police nationale congolaise a présenté mardi dernier à Kinshasa deux personnes accusées de détention d'armes, torture, enlèvement et d'atteinte à la sûreté de l'État. Selon la police, l'un des accusés aurait été contacté par Moïse Katumbi pour déstabiliser les pays à partir du territoire d'Aru dans la province de l'Ituri. Pour Christian Mwando, secrétaire général adjoint d'Ensemble, plateforme politique dirigée par Moïse Katumbi, il s'agit d'un montage grossier du régime en place qui est aux abois. Pour le président de l'UNADEF, Moïse Katumbi est un homme de paix. Il n'a pas l'intention de faire la guerre pour déstabiliser les pays. Comment analyser cette situation? C'est la question du débat de ce soir et nous en parlons avec Raphaël Loulou, le secrétaire général adjoint du parti politique MSR, membre de la majorité présidentielle. Bonsoir, monsieur Raphaël Loulou.
Bonsoir.
Christian Mwando, député national de l'opposition et président du parti politique UNADEF, il est aussi secrétaire général adjoint d'Ensemble pour les changements, plateforme politique de l'opposition dirigée par Moïse Katumbi. Bonsoir, honorable Christian Mwando.
Bonsoir.
Et professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Il est aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Bonsoir, professeur Félicien Kabamba.
Bonsoir, Guy Maté.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
La police nationale congolaise a présenté mardi dernier à Kinshasa deux personnes accusées de détention d'armes, torture, enlèvement et d'atteinte à la sûreté de l'État. L'un des accusés, du nom de Aïki Tabani Ibrahim, aurait été contacté par Moïse Katumbi pour déstabiliser des pays à partir du territoire d'Aru dans la province de l'Ituri. Ibrahim Aïki serait un ancien démobilisé des FRDC depuis 2005, mais qui a intégré l'Alliance pour la libération du peuple congolais, ALPC, en 2012, un groupe armé qui opère dans l'est du pays. On écoute les explications du porte-parole de la police, le colonel Pierrot Monamputu, au micro de Richard Junior Kamou.
Il a confirmé sur procès-verbal le renseignement frais qui établissent à sa charge qu'en date de 2 et 3 février 2017, au quartier Sambia à Kampala, en Ouganda, il a pris des contacts avec l'ex-colonel John Chibangu et un lieutenant du nom de Massamba, en compagnie de plusieurs autres éléments en provenance, les uns de l'Afrique du Sud et les autres de la Belgique, qui tous se sont déclarés être des émissaires du ciel Moïse Katumbi Tchap. D'après les déclarations du Sir Aïki Taban Ibrahim, ci-devant, le déplacement de ces émissaires était motivé par la décision de Sir Moïse Katumbi Tchap de solliciter l'installation des hommes à sa solde dans la zone où sévit le groupe armé ALPC, de manière à ouvrir les hostilités à partir du territoire d'Aru, province de l'Ituri, dès qu'une base arrière lui serait accordée à Ouganda. Le Sir Aïki Taban Ibrahim a été interpellé à Bounia le 3 avril 2017 au centre de capture de données pendant qu'il s'employait à remplir les formalités d'obtention d'un passeport biométrique sous la fausse identité de Ibrahim Moro Taban.
Raphaël Loulou, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du parti politique MSR, membre de la majorité présidentielle. Et vous n'êtes pas le porte-parole de la police nationale congolaise, mais est-ce que vous comprenez ces accusations de la police à l'endroit de Moïse Katumbi Tchapoui?
Merci beaucoup. Moi, je salue l'honorable Mwando, l'honorable et le professeur Félicien Kabamba. Je salue vos auditeurs. Je voudrais d'emblée dire que les accusations ne viennent pas de la police. Nous avons entendu certainement le colonel Monamputu lire le PV de l'audition de prévenu. Et Ibrahim, certainement, a fait des aveux selon lesquels il aurait été membre mandaté par Monsieur Katumbi. Donc je pense que vouloir aujourd'hui confirmer ou infirmer ces aveux n'est pas donné à chacun d'entre nous. Au moins, nous, ce que nous pouvons dire, c'est laisser les enquêtes se poursuivre ou l'audition, parce que certainement que ce n'est pas, à ma connaissance, c'est pas Ibrahim seul qui pourrait être dans cette œuvre-là. Certainement qu'il y a d'autres Et moi, je pense que en poursuivant l'audition, et nous pouvons avoir assez d'éléments pour confirmer ou infirmer.
Alors, donc, lorsque vous dites que les accusations ne viennent pas de la police, pour vous, elles viendraient d'où ? Parce que c'est la police qui a pris la responsabilité, n'est-ce pas, de présenter les faits devant la presse.
Moi, je pense que c'est simple de comprendre que la police n'a fait que relayer les aveux. Parce que le colonel Monampoutou l'a dit dans l'audition que nous avons suivie tout à l'heure, il l'a fait. Ibrahim a fait des aveux. Ça veut dire qu'il l'a dit. Selon le PV qui a été établi. Donc, je suis, en fonction de cela, je suis à mesure de dire que ce n'est pas la police.
Bon, évidemment, c'est vous qui le dites. Hein, c'est vous qui dites que ce n'est pas la police, mais vous n'avez pas assez d'éléments pour attester que les informations proviennent d'une autre organisation, de notre corps.
De notre corps, moi je dis, ici nous voyons le prévenu Ibrahim. Il a fait des aveux, les avait consignés dans le PV, et c'est ce que le colonel Monampoutou a dit. Donc comment voulez-vous que nous puissions dire c'est la police qui a incriminé Moïse Katumbi? C'est la police qui a cité le nom de Moïse Katumbi? Parce que la personne qui a cité le nom est là. La personne l'a dit sur PV. Moi, je pense que c'est une question de logique, ça.
Alors, à votre avis, pourquoi cette précipitation? On sait que l'affaire est en cours d'instruction. Et au terme de la loi, de la législation congolaise, la police, quand elle pose des actes à caractère judiciaire, elle ne peut pas faire des déclarations publiques sans au préalable avoir l'aval des parquets. Et dans les cas d'espèce, on dit qu'il y a des sources, n'est-ce pas, qui affirment que cette procédure n'a pas été respectée.
Oui, on peut dire, mais la présentation, nous avons toujours assisté à la présentation de malfrats. Hein. Lorsque une situation comme ça arrive, la police présente et donne les raisons pour lesquelles ces gens ont été arrêtés ou les circonstances de leur arrestation. Et je crois que c'est le cas. Mais quant à dire, et c'est pour ça que je dis, pour moi, les enquêtes doivent continuer ou sont en train de continuer pour qu'on établisse les responsabilités des uns et des autres. Peut-être Ibrahim va citer encore d'autres. Peut-être dans la confrontation, on va donner un autre verdict. Donc, moi, je pense que c'est le début. Et ça s'est toujours fait ainsi. Ce n'est pas la première fois qu'on présente les malfaiteurs.
Oui, le porte-parole de la police, on l'a suivi, a parlé des démarches que Moïse Katumbi menait pour obtenir une base arrière sur le territoire ougandais. Monsieur Raphaël Loulou, le fait que la police met en cause un pays voisin dans les activités à caractère criminel, cela ne peut pas nuire aux relations de bon voisinage. Pourtant, c'est un problème qui pouvait se régler à travers des canaux diplomatiques entre les deux États.
Tout à fait, je pense que ce genre de questions, on doit les traiter par deux voies diplomatiques, certes, mais je crois que la personne ou le colonel qui a donné ça peut avoir d'autres éléments et qui l'a poussé à citer l'Ouganda. Et c'est à ce titre que nous devons clarifier les choses. Parce que vous savez, nous sommes ici dans le cas de prévention ou peut-être d'information à la population. On doit dire d'où vient le mal ou d'où vient le fait et pour que la population soit informée. Et quand il y a de procédures judiciaires, naturellement, on doit les suivre de manière classique.
Après l'affaire de 600 mercenaires, après l'affaire Stupis, après l'affaire des nationalités, aujourd'hui c'est l'affaire d'une rébellion. Et que répondez-vous à ceux qui parlent d'un acharnement à l'endroit d'un adversaire politique sérieux?
Je ne pense pas qu'il soit question d'acharnement ici. Ce sont les faits peut-être. Je ne voudrais pas, je n'ai pas assez d'éléments sur les affaires.
Les faits ne sont pas encore avérés.
Oh, tout à fait. Je n'ai pas assez d'éléments, mais au moins, ce que je connais, moi, je sais que... Et moi, ici, je ne suis pas là pour incriminer tel ou tel, mais je parle de certains faits à ma possession. Vous savez que depuis toujours, on a demandé, les gens de l'opposition en général, et particulièrement du rassemblement aujourd'hui qui devient ensemble, ont toujours dit, Pas de transition sur Kabila. Kabila doit partir, quel que soit le moyen. Monsieur Olivier Kamitatou a parlé de grands moyens. Et là, j'ai compris qu'il s'agissait, bien entendu, de moyens autres que les moyens financiers, parce que les moyens financiers, ils les ont. Hein. Mais quand il dit de grands moyens qui dépassent les moyens financiers, peut-être ça laisse à chacun le loisir de deviner. Et aussi, vous savez, moi, je suis de l'Est. Le passage de M. Moïse Katumbi à Kigali, en Ouganda, personne...
À Kigali pour obtenir son prix, les prix Ibrahim.
C'est ce que vous dites, les dessous de cartes, peut-être vous n'en savez rien. Le passage de M. Katumbi à Kigali et au Rwanda laisse l'ensemble du peuple congolais de l'Est perplexe, vous comprenez? Et vous savez, le commun des mortels à l'Est, quand vous pactisez avec ceux de pays limitrophes de la République démocratique du Congo qui ont des velléités belliqueuses, tout de suite, on peut arriver à cette conclusion-là.
On a compris que pour Raphaël Loulou, le fait de passer par Kigali et Kampala équivaudrait à dire qu'on pactise avec les régimes de ces deux pays.
Ben, bien entendu, vous ne pouvez pas arriver là-bas si vous n'avez pas de relation avec ce pays.
Merci Christian Mwando. Bien entendu. Christian Mwando, député national de l'opposition et président du parti politique UNADEF. Vous êtes secrétaire général adjoint d'Ensemble pour les changements, plateforme politique de l'opposition dirigée par Moïse Katumbi. Réagissant à ces accusations, vous avez parlé des montages grossiers. Pourquoi un montage grossier?
Non, vous avez rappelé tout à l'heure, hein, je crois que c'est depuis que Moïse Katumbi s'est proclamé en avril 2016 candidat à la présidence de la République qu'on ne cesse de monter des cabales contre lui. Il y a eu la question des mercenaires. Cette question a fait flop, vous l'avez souligné, parce que des 600 mercenaires qu'on nous disait qu'il avait derrière lui, on n'en voit pas un seul. Et il a fallu que le procureur général nous informe cette année-ci que sur injonction du ministre de la Justice, il envoie le dossier à la Cour suprême. Ça veut dire que ce n'est pas de sa propre volonté, parce qu'il le sait mieux que moi, le dossier est vide. On a parlé de spoliation ensuite, parce qu'on s'est rendu compte que ce dossier était tout à fait vide. On a parlé de spoliation de la maison qui appartient à son grand frère. Vous ne pouvez pas spolier un bien qui n'a jamais été à vous. Et son grand frère a dit que ce bien n'a jamais appartenu à Moïse Katumbi, c'est mon bien. Son grand frère est vivant, Moïse Katumbi est vivant. On n'a jamais même voulu entendre son grand frère, qui est l'allié de la mouvance présidentielle aujourd'hui. Et on continue à dire que c'est Moïse Katumbi qui a la maison. Et ces deux affaires, vous avez suivi, le rapport de la CENCO a été très clair en mars 2017. Il s'agissait tout simplement d'une mascarade. Et donc, maintenant que ces deux affaires risquaient d'être réglées par les mesures de décrispation, parce qu'il s'agit des affaires qui sont reprises dans l'accord du 31 décembre 2016, que ces deux affaires risquaient d'être éclatées, il fallait vite monter une autre affaire, parce que l'affaire de nationalité, c'est pas très sûr, les gens ne se retrouvent plus eux-mêmes. Il faut donc vite monter une affaire de mercenaires avec un seul objectif. Je dirais même deux. Premièrement, empêcher à tout prix Moïse Katumbi, dont la mouvance présidentielle a une peur bleue, hein, d'être candidat. Deuxièmement, faire dérouter le processus électoral, parce que on parle ici de rébellion. Moi, je ne sais pas si quelqu'un qui est aujourd'hui favori dans les sondages, qui a sa machine de guerre, sa machine de campagne prête, qui a un programme et va aller se mettre des aventures pour aller faire la guerre. Et la guerre, la faire où? À Aru. Mais ceux qui ont l'habitude de faire la guerre savent comment ils pensent. Mais Moïse Katumbi n'a jamais pensé à prendre les armes. Il l'a toujours dit. Vous allez voir aussi pourquoi c'est une mascarade. On parle de Moïse Katumbi qui aurait envoyé les gens en le 2 et le 3 février 2017. Rappelez-vous que nous sommes là après un mois de la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc nous sommes majorité présidentielle et opposition en train de négocier le gouvernement d'union nationale qui devait nous amener aux élections au plus tard en décembre 2017. Donc en ce moment-là, il n'y a personne, et alors personne, qui peut penser à un seul moment qu'il va y avoir violation de l'accord et que nous pouvons aller dans des troubles. Nous sommes plus dans le processus d'entente de gouvernement d'union nationale. Donc, il s'agit d'un...
Et donc, il n'y avait pas des raisons qui expliquent le recours à cette voie,
aucune, n'est-ce pas ? Aucune raison, parce que l'accord n'était pas encore saboté. Et n'oubliez pas ici, monsieur, parce que ce qu'on oublie de nous dire, le monsieur a été arrêté en avril 2017. Avril 2017. Nous sommes en mai 2018. Ce monsieur a été conditionné dans les maisons de la DEMIAP et autres. Et vous avez suivi ce que c'est le 20 avril 2018, donc une année après, que le général de la DEMIAP, le général Delphin Kaimbi, est venu dans les chaînes de radio pour dire que, à Jeune Afrique, pour dire que il était, Moïse avait été cité par le colonel Tshibangu, qui reste au secret, qui n'est pas cité par ses avocats. Il a fallu donc trouver un bouc émissaire, quelqu'un qui va venir étayer le complot qui est fait contre la démocratie, contre le processus électoral dans notre pays, parce qu'on veut faire dérailler la machine, tout simplement.
Voilà, puisque vous parlez d'une mascarade, vous parlez d'un montage, à supposer que cela soit effectivement un montage, ce ne serait pas lui-même Moïse Katumbi, à travers certaines déclarations, vous avez suivi M. Raphaël Oulu, qui a rappelé, n'est-ce pas, la déclaration du porte-parole d'ensemble, M. Olivier Kamitatou, et qui dit qu'il parlait, n'est-ce pas, de prendre le pouvoir par des gros moyens. Est-ce que ce n'est pas lui-même Moïse Katumbi qui aurait donné des idées au camp adverse à travers ce genre de déclarations?
Non, mais vous savez que les gros moyens, ce qui est arrivé dans des pays voisins, ce n'est pas nécessairement par les armes. Nous sommes dans une lutte pacifique. Nous pensons que l'article 64 pourrait toujours être appliqué. Donc, nous pensons que si le 23 décembre, cela ne se fait pas, nous allons appeler à la lutte pacifique avec notre population. C'est un peu ça. Donc, pour nous, nous sommes engagés à aller aux élections le 23 décembre et pas plus tard. Nous avons un candidat. Nous avons un programme, mais en face, vous voyez bien que les gens n'ont ni candidat, ni bilan, ni programme, et ils sont en train de s'efforcer, à 3 mois du dépôt de candidature, de faire dérailler la machine, mais nous n'allons pas leur en donner l'occasion. Aujourd'hui, nous voulons la transparence, nous voulons l'inclusivité, nous voulons la décrispation politique. Et ce qui est fait pour le moment ne concourt pas à la décrispation politique. Il s'agit d'une tentative de confisquer le processus électoral. Et peut-être même c'est eux qui veulent provoquer des troubles, comme ça a été fait l'année passée avec Kamuina Sapu, pour éviter que les élections se tiennent en temps et en lieu. Ce n'est pas ensemble qu'il y a un candidat, un programme qui est prêt aller aux élections, qui peut aujourd'hui prétendre prendre les armes. C'est impossible, c'est un non-sens.
Monsieur Kisemwando, est-ce que vous êtes surpris par ce qui vient d'arriver à Monsieur Moïse Katumbi? N'est-ce pas que vous devez attendre à cela, d'autant plus que quand on s'engage dans une lutte pour la conquête du pouvoir, et tous les coups sont permis, est-ce que vous êtes surpris par ce qui vient d'arriver à Moïse Katumbi?
Je crois que ce pouvoir ne manquera jamais de nous surprendre. Je crois qu'à un moment donné, on est allé trop bas. Tout, comme vous le dites, vous, que tous les coups sont permis. Moi, je crois qu'en politique, tous les coups ne sont pas permis. La démocratie, un état de droit, a des règles. Les règles, il faut les respecter. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Nous avons des lois, nous avons une constitution et qu'il faut respecter. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression qu'on a mis au pas toutes les institutions. On en a fait des torchons pratiquement. Aujourd'hui, aucune institution ne fonctionne normalement et il faut faire tous les coups à ses adversaires politiques. Et cela, en, en, en marchant sur la démocratie, et cela, ce n'est pas acceptable.
Merci, professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa. Vous êtes aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Et comment vous analysez ces allégations qui font état, n'est-ce pas, de la tentative de déstabilisation du pays par Moïse Katumbi-Tchapwe?
Pas trop surpris. Ce sont des accusations que je trouve très graves, étant donné qu'elles portent atteinte à l'intégrité du pays. Et de telles accusations, à un moment où le pays veut s'engager dans des échéances électorales, me semblent des accusations très très dangereuses. Mais en fait, ces accusations sont portées à l'endroit de Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, quand on fait généralement la typologie des acteurs politiques, on a plus difficile à les à les classer selon leurs appartenances idéologiques. Mais il y a de plus en plus une typologie qui sort de l'ordinaire et qui tend à classer les acteurs en fonction de leurs origines belliqueuses, miliciennes, belligènes. Et vous avez dans le gouvernement, vous avez dans la classe politique, beaucoup d'acteurs qui ont ces origines belligènes. Et par contre, la personne qui est citée est plus connue comme homme d'affaires et comme homme sportif, donc un dirigeant sportif, et qui n'a pas eu une histoire entachée de sang. Alors aujourd'hui, le fait qu'on brandisse cette personne comme une personne voulant s'engager dans une aventure militaire contre la RDC, est-ce véritablement, ça tient la route? Voilà toute l'interrogation qu'il faut soulever.
Oui, les temps passent et les hommes changent. De l'homme, l'homme d'affaires, il peut, n'est-ce pas, se transformer en un seigneur des guerres.
C'est bien cette interrogation qu'on veut soulever. Est-ce que Moïse a cessé d'être cet homme, ce politicien connu comme faisant la lutte pacifique? Est-ce que Moïse est devenu un homme qui aujourd'hui a une idéologie de la lutte militaire? Ça, c'est en fait une lutte violente. Ça, c'est véritablement l'interrogation qui est la question que vous mettez sur la table.
Oui.
Alors, oui.
Professeur, cette accumulation des charges à l'endroit d'une seule personne, certes, cela peut s'expliquer politiquement, mais est-ce que ce n'est pas une stratégie qui pourrait être contre-productive pour le pouvoir, dans ce sens que cela pourrait pousser, n'est-ce pas, les indécis qui n'avaient jamais cru, n'est-ce pas, la personne de Katumbi comme étant opposant plutôt, de pouvoir les considérer comme un adversaire de taille face au candidat qui sera aligné par le pouvoir?
Vous savez qu'un opposant, il n'est pas en un seul jour. L'opposition, l'aura politique se construit. Et dans la construction de l'aura politique, vous avez toutes les épreuves. Ce qui a aujourd'hui fait de Étienne Tshisekedi qu'il devienne ce qu'il est, c'est qu'il est passé par plusieurs épreuves. Alors, il y a là véritablement une erreur, à mon avis, de la majorité, parce qu'en fait, les différentes épreuves que Moïse subit peuvent avoir un effet contraire, c'est-à-dire peuvent véritablement l'élever auprès de l'opinion publique.
Les façonner comme un
absolument
véritable opposant.
Et construire une véritable figure du candidat. Et, étant donné qu'on parle de temps en temps de Moïse, et là la population se demande finalement, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il représente vis-à-vis du pouvoir en place? Il y a là, de mon point de vue, une stratégie qui peut avoir un effet contraire. Mais venons-en un peu à cette logique qui devient assez difficilement lisible, parce qu'en fait, quand vous regardez les choses de près, vous vous rendrez compte que depuis la mise en place d'Ensemble pour le changement, il y a en fait une prolifération des accusations et même un déterrement d'anciens dossiers à l'endroit de Moïse. Et donc, on se demande bien quel est le plan qu'il y a en face. Et étant donné qu'en fait, Ensemble pour le changement a aussi constitué des anciens de la majorité, aussi bien que certaines de l'opposition qui ont rejoint le groupe et qui forment aujourd'hui, si vous voulez, un groupe aussi hétérogène. Mais ce groupe a cette caractéristique de partir un peu plus tôt, c'est-à-dire ils ont constitué un groupe avant les autres, ils se sont donné donc ils sont dotés d'un cadre programmatique, ils ont un schéma de combat politique, de combat et donc de compétition électorale qui me semble clair. Ils se sont structurés de haut vers le bas. Et quand vous regardez dans leur structuration, vous avez là, dans chaque province, donc ils sont présents, vous sentez là.
Et donc ils inquiètent les autres adversaires.
Absolument.
Politiques.
Alors vous sentez là qu'il y a véritablement une organisation, une machine qu'ils veulent mettre en place dans la conquête, n'est-ce pas, de l'électorat. Et en face, il me semble bien qu'il n'y a pas encore un jeu, un schéma lisible. Un schéma qui peut donner à l'analyste, si vous voulez, une visibilité, une bonne intelligence sur l'intention réelle de la majorité. Et donc, devant cette organisation, il me semble bien, et cette organisation est en train d'aller un peu plus vite, il y a moyen de dire, OK, vous allez assez vite, et puis essayez voilà.
Politiquement, cette accumulation des charges s'explique, politiquement. Ça se justifie.
Alors, on peut dire qu'elle se justifie, mais elle peut se lire dans cette, si vous voulez, dans cette confrontation entre les différents acteurs. Il y en a qui veulent prendre de l'avance, qui veulent aller un peu plus vite dans l'organisation de leur combat politique. Il y en a qui tergiversent et qui n'ont pas véritablement de schéma. Et quand vous regardez d'ailleurs, entre Ensemble et les autres plateformes politiques, eh bien, vous avez une majorité qui a suffisamment de moyens parce qu'elle est restée au pouvoir. Et donc, elle peut, dans un système où la compétition électorale se faisait aujourd'hui, par rapport à une opposition autre qu'Ensemble, vous avez là une compétition qui est assez inégale, étant donné qu'il y a un très grand différentiel sur le plan de moyens. Et de ce point de vue, Ensemble représenterait, de mon point de vue, en fait, une alternative, mais une alternative qui peut inquiéter.
Merci, M. Raphaël Loulou. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Lubumbashi.
Chouk Moïdiroua à Lubumbashi. Pour stabiliser un territoire, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Comme par exemple les moyens humains, c'est-à-dire les éléments déjà recrutés, la logistique, et ici on voit les munitions de guerre, les tenues, le véhicule pour le déplacement, les cas d'entraînement et même la base arrière. Alors, si la police nationale congolaise a des éléments de preuve qui justifieraient sa déclaration, la personne ne s'opposerait à cette thèse. Et dans le cas contraire, les bandits armés que la police a arrêtés ne peuvent jamais déstabiliser un territoire. Et tout montre clairement qu'il s'agit d'un acharnement de bas étage, parce qu'il ne se passe pas une semaine que Moïse ne soit cité ou mêlé dans des histoires montées de toutes pièces.
Monsieur Raphaël Loulou.
Ouais, je crois qu'il ne s'agit pas d'acharnement du tout. Et je ne pense pas que la candidature de M. Katumbi peut inquiéter, non. Et dans la mesure où c'est une compétition électorale, et nous savons qu'en face de la majorité, il doit naturellement avoir d'autres compétiteurs. Et ici, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. C'est trop tôt de croire qu'à la majorité, il n'y a pas un schéma clair, il n'y a pas un plan. Non, c'est justement une analyse qui ne tient pas. Parce que à la majorité, nous l'avons toujours dit, nous avons des stratégies électoralistes et qui ne sont pas populistes. On n'a pas besoin de les mettre sur la place publique pour enchanter peut-être les uns et les autres. Acharnement, non, je répète encore une fois. Nous sommes en face de faits. Lorsque M. Ibrahim, interrogé sur PV, il dit « c'est pas quelqu'un qui est mort, c'est pas une personne fictive, la personne existe ». Et je crois que, je l'ai dit, par prudence.
Il faut aussi se demander, se poser la question de savoir dans quelles conditions la personne était quand elle a fait ses aveux.
Oui, on peut bien vouloir dire il a été torturé, il a été obligé, conditionné, pour citer le nom de Katumbi. Mais au moins, le PV existe et la personne est là. Il y a tous les moyens qui peuvent permettre à ce que l'on vérifie. Et ici, même pour répondre à l'auditeur de Lubumbashi, deux bandits armés ne peuvent pas. Mais il peut se faire que les deux bandits, c'est la forêt qui cache, ou c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça veut dire que les enquêtes vont continuer. Il ne faut pas croire que, en arrêtant les deux bandits, comme ils les appellent, à main armée, ça s'arrête là. L'interrogatoire va se poursuivre. Certainement qu'on connaîtra d'autres révélations. Vous comprenez? Et ici, je le dis, vous l'avez peut-être dit à M. Christian, à l'honorable Christian Mwando, le fait de déclarer soi-même ce que l'on veut, ce que l'on a, et peut-être on tombe dans un piège. Si j'ai un conseil à prodiguer aux compatriotes de l'ensemble, c'est d'arrêter des déclarations incontrôlées. Parce que quand je vous dis les déclarations de M. Kamitat, je le cite, de gros moyens. Qu'est-ce que ça veut dire, de gros moyens? Lorsqu'on dit que M. Kabila partira du pouvoir parce qu'il n'entend que le langage des armes. Quand on dit, par exemple, que nous sommes prêts à tout. Et quand on dit, il ne faut pas que les gens nous condamnent par après. Nous sommes en train de demander à M. Kabila de partir. S'il ne veut pas, il ne faut pas qu'on vienne nous condamner. On vise quoi?
Et donc, ces déclarations vous ont donné des arguments pour coincer davantage les candidats à Moïse Katumbi.
Ce n'est pas nous qui coinçons M. Katumbi. Ce sont ces hommes qui font des déclarations incontrôlées. Ils ne savent pas qu'en parlant ainsi, ils sont en train de mettre leur chef en difficulté. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, non seulement moi, toute personne, vous pouvez demander, M. Katumbi est lui-même en train, ou parle pas lui-même individuellement, mais par ses collaborateurs, on est en train de le pousser dans un piège sans le savoir.
Merci, honorable Christian Mwando. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Bukavu. Voilà.
Je suis Mamedia de Pascal à partir de Bukavu et tout. Je pense que les accompagnateurs de M. Moïse Katumbi devraient mettre un peu d'eau dans les vins en prodiguant des conseils à leur leader Katumbi, éviter des discours du genre prendre le pouvoir par les gros moyens, au lieu de crier chaque fois au montage ou acharnement, car depuis l'an 2016, ils promettaient de prendre le pouvoir par tous les moyens. Et malgré les montages, comment peut-on croire à un individu qui a plus de 5 dossiers judiciaires à devenir président de la République? Il n'y a pas de fumée sans feu du tout.
Honorable Christian Mwando.
Oui, merci beaucoup pour la question. Je voudrais d'abord rétablir les choses. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation exceptionnelle où nous avons un président qui a confisqué le pouvoir. Ne renversons pas les choses. Joseph Kabila aurait dû partir en décembre 2016. Donc, aujourd'hui, il est en dépassement. Il a confisqué la démocratie. Il a confisqué les élections et il est en dépassement de 17 mois. Donc, ce n'est pas ceux qui disent que Joseph Kabila doit partir qui ont tort. Non, c'est Joseph Kabila qui a tort de rester au-delà de son mandat. Alors, mettre de l'eau dans son vin, ça veut dire quoi? Je crois que nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes des démocrates, mais nous devons demander à notre peuple de ne pas se laisser faire. Parce que lorsque on ne respecte pas les lois de son pays et qu'on veut s'approprier toutes les démarches et confisquer le pouvoir, monopoliser, confisquer le pays à son profit personnel, je crois que tous les Congolais n'ont pas le droit de se taire. Et nous, au niveau d'ensemble, nous avons décidé de ne pas nous taire et à un moment donné, comprenez que nous devons faire face, nous sommes torturés, nous sommes poursuivis, nous sommes pourchassés, mais nous devons faire face à un pouvoir répressif et nous devons lui dire que nous sommes prêts à tout dans la voie démocratique.
Vous avez décidé de ne pas vous taire, mais vous devez éviter des déclarations incontrôlées, comme vous l'a conseillé M. Raphaël Eloulou.
Qu'est-ce que vous appelez des déclarations incontrôlées? Je crois que... Lui, il connaît ce que c'est les déclarations incontrôlées, parce que, pas lui personnellement, je le connais qu'il est assez courtois, mais les déclarations incontrôlées, vous les avez tous les jours à la RTNC et nous en sommes victimes. Et là, ce n'est pas une déclaration incontrôlée de dire à quelqu'un qui, en réalité, n'est pas à sa place et qu'il est en train de confisquer le pouvoir que, monsieur, vous devez dégager. Je crois que c'est tout à fait normal pour chaque citoyen de ce pays.
Est-ce que vous n'êtes pas allé trop vite? Vous avez suivi le professeur Félicien Kabamba. Vous avez en face de vous un pouvoir qui n'a pas encore des candidats officiellement et qui n'a pas encore un programme officiel. Mais vous avez déjà un candidat, vous avez un programme, vous avez mis en place une organisation qui fait que l'ensemble... pour les changements qui viennent de naître, a déjà une assise réelle sur les terrains à travers tous les pays. Vous pensez que vos adversaires politiques vont rester passifs? Non.
Vous savez qu'un pays comme le nôtre, il a 80 millions de citoyens. Il a 2 345 000 km² de superficie. Vous êtes à 3 mois des élections ou de dépôt de candidature. Vous n'avez ni candidat ni programme. Non. Nous voulons diriger ce pays autrement. On doit sortir des beaux slogans. Nous voulons justement sortir de ces débats d'individus pour discuter programme contre programme. Et 8 mois, 10 mois, 12 mois, c'est pas énorme pour un pays pour que le peuple puisse comprendre programme contre programme ce qu'on veut faire. Nous, on veut faire les choses autrement, sortir du débat des personnes avec nos adversaires politiques de la majorité, débattre autour de leur programme et qu'on sache qui est-ce qu'ils nous présentent comme candidat et qui ils proposent pour conduire le pays dans les années à venir. Vous savez qu'aux États-Unis et dans des pays organisés, les candidats sont connus presque 2 ans ou 3 ans avant la date des élections. Et ça, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on veut surprendre la population. On cache son candidat, on cache son programme. Mais quand est-ce qu'on connaîtra qui est l'adversaire? Simplement, on n'a pas l'intention, peut-être, de suivre le processus électoral.
Professeur Félicien Kabamba, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kinshasa.
Patient Biamungu Rukuba depuis la ville province de Kinshasa. Et comme Katumbi a parlé de grands moyens pour faire partir Kabila, il faut utiliser ces mêmes déclarations pour les noyer. Cependant, il est très difficile de comprendre les jeux de la majorité présidentielle face à Moïse Katumbi. Condamné par le tribunal de Lubumbashi, il lui avait autorisé d'aller en exil au moment où nous avons des prisonniers qui courpissent de la maladie à Makala sans être autorisés d'aller se faire soigner à l'étranger. Avec tout cet arsenal d'accusations graves sur cet homme, pourquoi pas initier un avis de recherche international et le faire venir aux mains de la justice congolaise comme on l'a fait pour John Tshibangu, sachant qu'il fait des navettes dans les pays voisins et en bonne relation diplomatique avec la RDC, notamment le Rwanda et la République sud-africaine. Sinon, on redoute un simple théâtre de diabolisation visant à pousser l'attention des gens sur la personne de Moïse Katumbi.
Professeur Félicien Kabamba.
Voilà un Congolais qui exprime son avis et donc c'est un avis qu'il faut prendre tel qu'il est. Non, mais Moïse n'est pas comme John Tshibangu. Moïse, étant donné sa stature, il a, de mon point de vue, un lobby très important au niveau national et international qui le soutiennent. Il n'est donc pas très facile de mettre la main sur Moïse comme ça a été le cas pour John Tshibangu. Mais revenons-en à la multiplicité de dossiers de Moïse. En fait, nous assistons malheureusement à une sorte de juridicisation du combat politique, si j'emprunte le concept de Gilles Paulet, et qui ne va malheureusement pas aider les Congolais à faire le choix selon les desiderata de chaque Congolais. Parce que dès lors que c'est la justice qui se mêle et qui probablement a des motivations assez différentes, eh bien, il sera difficile que le combat politique soit un combat qui se passe selon, si vous voulez, les chances que chaque candidat peut présenter devant l'opinion publique. Il s'agit là, de mon point de vue, un danger très important. Il était de bon aloi que le Congolais se choisisse les candidats de leur choix. Et pour ce faire, il fallait donner la chance à chaque Congolais d'être candidat. Mais là, vous savez que nous avons aussi des lois qui sont assez sévères. Et donc, tout cela nous rattrape d'une manière ou d'une autre. Mais alors, ça ne va pas concourir à asseoir une démocratie solide.
Avec cette nouvelle affaire, comment vous entrevoyez l'avenir politique de Moïse Katumbi? Est-ce qu'on n'est pas en train, avec toutes ces charges-là, on n'est pas en train justement de les pousser à se radicaliser et à utiliser cette approche militaire qui redoute tout le monde aujourd'hui?
Alors, moi, je ne pourrais pas parler à la place de Moïse. Donc, je ne connais pas bien les intentions de Moïse. Est-ce que Moïse a-t-il l'intention de prendre les armes? Est-ce que Moïse veut continuer dans la lutte pacifique? Est-ce que les accusations qui sont portées à l'endroit de sa personne sont des accusations vraies? Bon, j'ai parlé en fonction de faits, de ce que l'on connaît de la personne, mais pas de ses intentions, parce que les intentions de la personne, il faut entrer dans son cerveau. Et il est difficile pour moi, en particulier, de pouvoir entrer dans la cervelle de Moïse pour connaître ses intentions, s'il veut basculer dans la lutte non-violente.
Monsieur Raphaël Loulou, peut-on espérer qu'en dépit de ces nouvelles accusations, on pourrait autoriser Monsieur Moïse Katumbi à pouvoir revenir au pays pour se présenter aux élections du 23 décembre 2018?
Tout d'abord, Monsieur Moïse est parti aux soins, à ma connaissance. Il est allé aux soins, peut-être les soins ne sont pas encore terminés, il n'a pas encore eu l'avis favorable de ses médecins pour revenir. Personne n'empêche à Monsieur Moïse de rentrer. Il faut qu'on le dise. Et on connaît les conditions dans lesquelles il est parti.
Lorsqu'on brandit les menaces d'arrestation,
non, s'il vous plaît,
vous n'empêchez pas
écoutez,
de revenir au pays.
Nous sommes dans un pays de droit. Même quand le prof dit il a un lobbying et on ne sait pas mettre facilement la main sur lui. Mais écoutez, c'est une personne. Si il est vrai que M. Moïse a de démêlés avec la justice et qu'il est peut-être concerné ou incriminé, on mettra la main sur lui, peu importe le lobbying qu'il a. Et il ne faut pas, lorsqu'on veut, dire que la personne est ceci et cela, et on est en train de l'encenser et dire qu'on l'exonère en quelque sorte. Non. Et si M. Moïse s'estime, nous avons entendu, que lui-même il va venir au mois de juin, il a déclaré. Nous sommes aujourd'hui le 10 ou le 10 mai, oui. Je crois qu'il pourrait rentrer au mois de juin. Mais s'il n'a pas de problème avec la justice, il va. Il est congolais, même s'il a changé de nationalité. Mais donc, M. Moïse peut rentrer, mais s'il n'a pas de problème judiciaire, il ira librement chez lui. Mais s'il a des antécédents judiciaires, et certainement que la justice fera son travail. Mais et s'il est Loulou. Innocent, s'il est innocent, et il a des avocats, il peut venir. Moi, je sais que... il a déjà engagé pour la question de nationalité un grand avocat français qui viendra, qui a soutenu Mera en France, à Paris,
Raphaël Loulou,
il peut venir.
Ça sera sous votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, ma conclusion.
Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie de la majorité de pouvoir, harceler une personne jusqu'à pousser la personne à la faute, et comme ça la majorité en profite, en fait les pouvoirs en profitent pour remettre tout en cause et s'éterniser au pouvoir. Vous poussez la personne à prendre les armes et puis vous dites bon, que comme il a pris les armes, on remet tout en cause et bon, le chef d'État se permet de s'éterniser au pouvoir.
Non, je ne pense pas que ça soit une stratégie. Il s'agit ici d'une personne qui, voulant accéder à un poste politique, doit être prudente elle-même. Ça veut dire que le problème de nationalité, ce n'est pas une stratégie de la majorité. Ce n'est pas la majorité qui avait poussé M. Moïse à aller chercher la nationalité italienne et abandonner celle congolaise. Donc, vous comprenez que où est la stratégie majorité à ce moment-là.
Voilà, votre conclusion?
Oui, ma conclusion est très simple. Hein. On parle de justice. Justice ici, c'est comme si on était dans un état de droit. La justice est à la botte de M. Kabila, tout le monde le sait, et elle n'attend qu'exécuter les ordres de Joseph Kabila.
Et donc, c'est quoi le plan B de ensemble si jamais Moïse Katumbi n'est pas autorisé à revenir au pays?
Moïse Katumbi reviendra au pays, je crois que nous
comptons... Il n'y a pas de plan B.
Il n'y a pas un plan B. que nous pouvons annoncer ici, mais Moïse Katumbi va revenir. Qu'on cesse d'instrumentaliser la justice, qu'on cesse d'instrumentaliser les institutions, Moïse Katumbi n'a rien à se reprocher et Moïse Katumbi reviendra pour affronter les élections et battre cette majorité qui instrumentalise tout le monde dans ce pays.
Professeur Félicien Kabamba, votre conclusion?
Oh non, la prolifération des accusations à l'endroit de Moïse ne permet pas un combat, une compétition politique équilibrée.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique. Merci à Alain Irung et Donna Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Julien Yamouni. À la présentation, Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capi.